Osferti alors.
Ouais.
Comment ça va en cette sortie de crise?
Bah ça va, écoute, après un an de désert.
Bah ouais, c'est ça. Tu reprends tout doucement les concerts.
Ouais, ouais, c'est cool. On fait partie des chanceux qui ont des dates et tout.
Ouais.
Et puis voilà, retour à Esperanza, parce que moi j'étais il y a quelques années ici avec la Chiva Gantiva. Et donc voilà, retour.
Donc ça fait plaisir d'être de retour.
Ouais, c'est cool. Et puis là, il y a une bonne ambiance et c'est chouette.
Moi, je me demandais, en tant qu'artiste, comment tu vis le confinement? Est-ce que, parce que les artistes sont souvent dans leur chambre à faire leur son, est-ce que le fait d'être forcé de le faire pendant un an et demi, est-ce que...
En fait, moi, je suis passé par une phase un peu bizarre parce que j'ai fait ma sortie d'album au Botanique en mars 2020, donc le 11 pour être exact. Et comme tu sais, le week-end du 14-15, il y avait déjà les premières mesures. Étant à cheval entre la France et la Belgique, moi j'étais en France au moment du premier confinement qui devait censé normalement durer une semaine et puis bon voilà,
on sait très
tu
bien,
connais la suite. Donc il y a eu la première phase un peu bizarre de tout à récupérer au niveau de la promo, au niveau aussi 4 ans de boulot sur un album qui part pas à la poubelle parce que le truc est là, tu vois, mais c'est un peu chaud à gérer mentalement et il m'a fallu du temps pour vraiment me remettre à bosser et à envisager un planning de travail et des objectifs à faire. Puis là, vu que je suis aussi graphiste à côté, j'ai fait des petits boulots de graphiste sur le côté, j'ai fait de la prod, j'ai construit un réseau plus online. Mais c'est assez marrant que tu parles de ça parce que j'entendais un gars, justement, un businessman américain là, qui était interviewé par Mouloud Achtour sur Click, qui a créé la marque Kith, K-I-T-H, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Et justement, lui, il disait que au bout d'un moment, le monde digital nous fatigue, en fait. Mentalement, être tout le temps devant un écran et bosser à distance avec les gens, même quand tu es producteur de musique électronique comme je suis, il y a un moment donné, tu as besoin de contact, tu as besoin de répondants sur scène et puis aussi de voir les gens avec qui tu collabores.
Ouais, de montrer ton travail aux gens.
Rien que ça, tu
DJ,
vois.
En plus d'être producteur.
Ouais, la recherche de label, tout ça, ça se fait autour d'un verre aussi, tu vois. C'est pas uniquement un envoi de mail et un coup de téléphone ou une réunion Zoom.
C'est donc, l'humain aussi, quoi.
Ouais, bien sûr, ça remplace pas l'humain. Alors après, il y a des trucs qui se sont développés pendant le confinement qui étaient assez cool. Des plateformes, des réseaux, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin de bouger déjà et me transformer en autiste dans une cave avec plein d'objets électroniques autour de moi, ça me tente pas des masses, même si je travaille énormément avec l'électronique, quoi.
Donc moi d'aspiration pendant cette période, je suppose.
Au début c'était un peu le désert créatif et puis après c'est revenu je dirais 4-5 mois après le début du premier confinement où là je me suis dit bon allez on part sur autre chose, on continue à faire de la prod, on se met des objectifs. C'est bien d'en avoir en fait au niveau mental parce qu'au bout d'un moment si t'es un peu dans le flou et que tu t'organises pas et que tu t'essayes pas de créer quelque chose. En plus moi je travaille énormément avec le visuel, c'est-à-dire que j'ai une image en tête, puis je vais créer un IP de 4-5 titres autour ou des prods ou des collaborations et là ça se remet tout doucement en place. Enfin, le planning se remet tout doucement en place, quoi.
Ouais, il a fallu du temps, quoi.
Ouais, quand même.
Ouais. Tu parles de ton métier de graphiste, c'est ton métier, c'est ça?
Ouais, à côté, ouais.
Moi, je me demandais, du coup, est-ce que ton identité visuelle, c'est que toi? Tu crées ton identité visuelle. Est-ce que tu t'inspires de ton côté graphique pour ton son et inversement?
C'est marrant parce que... ça peut être soit l'un soit l'autre, ça va dans les deux sens en fait. Quand j'ai une panne en dessin, je l'ai déjà dit dans une autre interview, mais c'est un peu comme ça que ça marche. C'est un va-et-vient incessant en fait. Il y a des phases où je suis un peu moins créatif niveau son. Donc du coup, je vais me mettre à dessiner, puis je me dis, ah, mais là, il y a un moyen de raconter une histoire. Et puis c'est comme si c'était un film qui se déroulait dans ma tête ou avec une bande-son. Et du coup, même une image va me mettre en phase avec quelque chose de plus audio, quoi, plus musical. Et du coup, quand y a une panne en dessin, c'est la musique qui prend le dessus.
T'as
et là, je me dis, putain, en fait, y a moyen de faire des images par rapport à ce que je suis en train de créer au niveau musical, tu vois. Et ouais, il n'y a pas de... n'y a pas un workflow particulier en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais
donc tu te lèves pas en disant aujourd'hui je fais de la musique, aujourd'hui.
Ouais, ça c'est encore quand différent. Ça quand je suis dans des phases où je produis, où je suis sur un IP ou sur une série de 3-4, je marche surtout comme ça en fait en production. Je me contente pas de faire juste un morceau, un one shot et puis on passe à autre chose. En général, je teste 3, 4, 5, 6 morceaux dans la même vibe. Et après, à ce moment-là, tu vois, il y a en effet un truc qui se dégage, un planning, du dessin qui vient illustrer. Mais parce que moi, à chaque fois, j'illustre mes IP. Il y a toujours un teaser, une identité graphique par rapport à ce que j'ai sorti.
Okay. Donc, c'est un peu un travail parallèle.
C'est ça. Ouais, ouais.
Tu parlais d'histoire dans tes sons. Moi, je l'ai ressorti quand même. Comment ça marche à ce niveau-là? Est-ce que tu as une histoire en tête ou est-ce que ta musique te raconte une histoire?
Au début, quand j'ai sorti les premiers IP en plus en autoprod, quand il n'y avait pas encore le label, je réfléchissais pas forcément à une histoire de fond. J'enchaînais les IP et je produisais, je me faisais plaisir. Et puis à partir du moment où il y a ce personnage Osferti qui a pris forme avec un masque, avec une identité assez particulière. Bah là, je me suis dit, il est peut-être temps de créer un univers pour inscrire le personnage dans cet univers. Et du coup, là, l'histoire, forcément, elle est... Parce que quand tu crées un personnage, les premières questions, c'est d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses goûts, où est-ce qu'il veut aller, comment il vit, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il écoute, tu vois. Et donc, du coup, petit à petit, il y a un cheminement de fond, d'une histoire de fond qui s'est créée. Et là, le Solarius Gamma qui est sorti... l'an passé, c'est le premier album d'une trilogie, quoi. Comme trois BD, parce que moi, à la base, je suis BDiste. Je me suis transformé après plus en graphiste, en motion designer, illustrateur, mais vraiment, la base, c'est la BD, quoi. Donc là, c'était pour moi un espèce de premier tome d'une histoire en une trilogie, quoi. Donc j'ai vraiment envie de faire un zoom comme ça. Okay, Solaris Gamma, c'est la galaxie. Après, il y aura un zoom sur une planète, après, un zoom sur une ville. C'est comme ça que je le conçois, quoi.
Ouais, c'est super intéressant comme vision de ta musique. Et donc ici on est à Esperanza, donc tu sais bien qu'il y a des valeurs dans le festival. Et tu penses qu'à travers l'électro, donc de ce que j'ai entendu de toi, il n'y a pas beaucoup de paroles, tu penses que c'est possible de transmettre des valeurs à travers la musique électronique sans paroles, sans...
Ouais, bien sûr, il y a des positionnements de toute façon en tant qu'artiste qui amènent un débat au fil des interviews. Et c'est vrai que c'est plus abstrait parce que tu es moins en mode chanteur à déclamer un texte ou mais je pense que de toute façon le fait d'être sur une scène est déjà un acte politique en soi, tu vois. Tu viens pas là par hasard. Tu viens pour présenter un univers et pour présenter une certaine vision du monde qui t'entoure. Donc moi j'ai choisi ce chemin entre l'Éthiopie et l'Occident. Et puis tout ce que ça amène aussi au niveau de la migration, des problèmes identitaires, communautaires, famine, guerre, etc., qui sont, on va dire, les choses les plus négatives. Mais après, les cohabitations aussi entre les gens, tu vois, échanges culturels, c'est des choses qui paraissent peut-être un peu clichés, quoi, quand on parle comme ça, mais c'est super important. C'est la base, quoi, tu vois. Ouais. Surtout quand tu fais des projets comme ce que je suis en train de faire, s'il n'y a pas de minimum d'échanges, ça se casse la figure, quoi. Donc... ouais, moi c'est un peu. Je pense qu'en électronique, finalement, quand tu cherches. Quand tu creuses un peu le mec derrière les machines, quand tu. Il y a des choses à dire. Il y a toujours un discours un peu. Je dirais pas engagé dans le sens cliché, hein, mais il y a toujours une vibe. Enfin, l'électronique, ça, tu vois, la house ou la techno, ça vient quand même des milieux queer et homosexuels de Chicago, Détroit, des milieux populaires aussi. Donc déjà là, il y a quand même un truc qui se passe, quoi.
Ouais, mais c'est souvent plus difficile peut-être à transmettre qu'un chanteur ou un rappeur peut-être.
Ouais, ouais, bien sûr, parce que ça se passe d'une autre façon, quoi. Le speech, il est pas le même sur scène, quoi. C'est plus emmener les gens dans un univers et dans une vibe aussi, tu vois, les libérer aussi, tu vois, quelque part. Donc ça aussi, en soi, c'est une valeur, quoi.
Tu parlais de ton influence éthiopienne. Elle vient d'où Par exemple, pourquoi l'Éthiopie? Qu'est-ce qui te rapproche
mais
de
en fait,
cette culture?
Moi, j'ai un paternel qui a pas mal de disques et il avait des disques, ça lui arrivait, des disques black music, rock, etc. Donc, une très grande variété. Ça m'a toujours amené à creuser un peu au niveau musique. Et je me rappelle la première fois où j'avais vraiment flashé, parce que en fait la musique éthiopienne, enfin l'Ethio Jazz, on le connaît depuis très longtemps, tu vois. Mais là où j'avais flashé, c'est quand j'avais vu le film de Jim Jarmusch avec Bill Murray qui s'appelle Broken Flowers. Et en fait, dans le film, le voisin de Bill Murray est un, je crois que c'est un immigré jamaïcain, et il écoute quasiment que de l'Ethio Jazz, donc du vieux jazz éthiopien des années 60-70. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi cette musique? C'est hyper moderne, ça a été fait dans les années 60 et c'est complètement fou, quoi, au niveau des accords, au niveau des constructions de morceaux et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à creuser. Et puis, quand je suis parti en mars 2019 en Éthiopie, là, du coup, j'ai découvert aussi tout le panel folklore, donc musique tribale, les musiques d'église aussi, parce que c'est très imprégné par la religion aussi, l'Éthiopie. Donc il y a des chants liturgiques assez spécifiques à certaines régions. Et du coup, bah, tu creuses et puis, ah ouais, ok, là je comprends d'où vient l'Ethio Jazz en fait. C'est vraiment des gens qui ont étudié la musique de façon traditionnelle et qui ont ramené ça dans une forme un peu plus jazz, un peu plus électrique, mm-hmm. avec des instruments électriques comme la guitare, la basse électrique, etc., en formule bend, etc. Et ouais, je crois que ça vient de là en fait. Le point de départ, c'est ce film de Jim Jarmusch qui m'a fait un peu tilter en me disant, mais moi je me reconnais là-dedans en fait.
Ouais, okay.
Je me reconnais dans un truc. Et depuis le voyage en Éthiopie, c'est pas ma deuxième maison, mais presque, quoi. Je m'y sens un peu perdu et à la fois j'ai des repères. Okay. Avec les gens, avec la façon de communiquer, ça me correspond vraiment bien, quoi.
Ok. Alors, moi j'avais une autre question, parce que pour l'instant on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Est-ce qu'on t'a déjà accusé de ça?
C'est en fait pas directement, mais c'est via des débats. Alors on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que c'est vraiment très très vaste comme sujet.
Ouais, quand même. Ouais.
Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes. Il y a des histoires de traumatisme aussi. Il y a eu des abus de côté occidental de s'approprier des trucs, etc. Moi, je sais que à la fois, je m'inspire énormément justement de la culture éthiopienne, et à la fois, j'essaie de créer un univers. Et je sais qu'en permanence, j'ai toujours en tête, mec, fais gaffe à ne pas trop dénaturer ce que tu as écouté à la base, quoi. Et toujours avoir cet échange avec les gens, les rémunérer quand tu fais des enregistrements, les créditer, et surtout creuser. Parce que en fait, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de croiser des producteurs occidentaux qui samplent et en fait qui sont jamais allés en Afrique.
Ouais, et ça
me dérange un peu. Et puis même des fois jusqu'à ne pas clearer les samples. Et ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, y a tellement de dynamique et de talent aussi en Afrique. Qu'il faut franchir la frontière, tu vois.
Et vous allez mettre en avant, je suppose.
Ouais, ben bien sûr, moi c'est le but, hein. Là pour l'instant c'est un peu compliqué avec le Covid de mettre ça en place, mais j'ai toujours en tête de monter un spectacle avec des Éthiopiens, des danseurs, des chanteurs sur scène avec moi aux machines, et puis avec peut-être un batteur ou des trucs comme ça, quoi. C'est parce qu'il faut, c'est une culture qu'on connaît pas bien. Mm-hmm. On connaît les bases, l'Ethio Jazz, etc., mais on connaît pas du tout le reste. Et c'est un pays qui est tellement vaste, à la fois tribal. Il y a Addis Abeba qui est la grosse mégalopole, qui est complètement différent au niveau du rythme. Il y a matière, quoi.
Et tu penses que t'as encore à creuser
Grave.
Ouais.
Ah ouais. Après. Bien évidemment, je fais attention à ne pas faire que ça, parce que moi je suis très curieux de nature au niveau musical, et puis je cherche aussi ma voix en tant qu'artiste. Donc je vais peut-être faire des pauses avec des IP qui n'auront peut-être plus rien à voir avec la musique éthiopienne. Mais en tout cas, en mode album, je vais, comme je te disais tout à l'heure, c'est une trilogie et je tiens vraiment à avoir le focus là-dessus, mm-hmm. parce que j'ai fait même pas 2% de l'Éthiopie, quoi, tu vois. C'est tellement vaste.
Tu veux y aller à 100%, ou est-ce qu'à un moment tu aimerais passer à peut-être une autre culture ou à une autre vibe ou peut-être un autre genre musical carrément.
Bah, quand j'aurai fini les deux autres albums que j'ai en tête, pourquoi pas. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore matière à explorer. Après, j'espère qu'un jour le projet sera plus viable aussi, parce que c'est encore un truc un peu de niche. Donc on paye un peu aussi le côté peut-être manque d'opportunités des fois, donc il faut vraiment avoir c'est un marathon quoi, tu vois, il faut avoir vraiment une putain d'énergie en permanence et puis retourner en Éthiopie et voilà, je sais pas trop où ça va me mener, mais en tout cas moi j'ai une vision très claire en tête d'une histoire et d'un personnage de maison, de différentes communautés perdues dans une galaxie lointaine, tu vois, mais pas si lointaine que nous, ouais, finalement, ouais. Tu vois. C'est un peu ça le délire, c'est ramener en SF des trucs du réel, en fait. Mm-hmm. Et qu'en fait, on se rende compte que, quoi qu'il arrive, on est ensemble sur la planète et il va bien falloir qu'on l'entretienne ensemble et qu'on vive ensemble pour ça, quoi.
Donc, tu n'as pas envie d'animer ça?
Ah, mais je le fais. Je le fais déjà. Ce soir, il y aura pas de visuel, mais quand j'ai la possibilité de le faire, normalement, il y a des animations derrière pendant les shows. Et là, vu que la période est un peu transitoire pour moi en ce moment, que je me remets aussi un peu en question en tant qu'artiste, du coup, je vais aussi prendre le temps de vraiment mettre en place un espèce de long métrage de 15-20 minutes qui va explorer un peu tout cet univers là, quoi.
Cool,
ouais. Ouais. Bah c'est un peu la, je dirais, l'étape d'après en fait. Mm-hmm. Parce que je sais pas du tout comment ça va évoluer au niveau du Covid, est-ce qu'on va être confiné, est-ce que ça va se rouvrir. Donc forcément, je vais être obligé d'improviser aussi sur le moment, quoi. Mais ça, c'est du coup, c'est un truc qui est né pendant le confinement, quoi.
Ah ouais, donc ouais. Pas que du négatif.
Non, alors. non, pas du tout. Non, je me suis mis à la 3D, j'ai fait des formations de 3D. Ça va s'intégrer dans les prochains lives. J'ai fait de la compo, je me suis renseigné sur plein de trucs aussi. Je m'informe pas mal aussi sur l'Éthiopie parce que je prends pas mal de recul par rapport à ce que nous on vit en Europe. Et ce qu'eux, ils vivent là-bas. C'est-à-dire que nous, on arrive encore à bouffer. Là-bas, y a tout qui est confiné. Ils ne mangent pas, ils crèvent la dalle, quoi. Mm-hmm. Donc, y a toujours un recul à prendre par rapport à ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Du coup, ton plan ici pour ta trilogie, c'est tracé?
Pour l'instant, c'est remettre en place un voyage et une production un peu plus costaud pour le deuxième. Parce que le premier, j'y allais avec mon argent. Pour payer les musiciens. Après, on a eu l'aide bienveillante de Wallonie Bruxelles Musique, qui nous a aidé à payer les billets. Moi, je suis parti avec un ingé son. Mais là, c'est vrai que pour la prochaine production d'album, j'aimerais quand même avoir une équipe, un caméraman, peut-être un directeur artistique qui gère un peu des grosses équipes, plus de musiciens, plus de têtes connues aussi, peut-être varier aussi un peu plus les styles, parce que là, je me suis vraiment consacré à un truc entre du traditionnel et l'électronique. Et puis moi, je suis basse musique de base, donc pourquoi pas intégrer des trucs post dubstep ou break ou broken beat, ça s'inscrit très bien là-dedans, quoi. Mm-hmm. Explorer en tout cas et toujours avoir ce truc un peu SF science-fiction en tête, mais avec l'Éthiopie derrière, dans la tête.
C'est vrai que quand on pense SF et tout ça, c'est triste, mais on pense pas à l'Afrique jamais. Non. C'est vraiment
non, et puis en plus c'est un autre imaginaire, et même moi je me prends des claques parce que j'ai toujours l'approche de l'occidental par rapport à la SF, et je vais essayer de transcrire ça avec des choses de l'Afrique, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être étudiées de longue, ça prend du temps. J'ai fait des erreurs au niveau des symboles que j'utilisais, etc. Et puis on m'a fait justement par mail, fais gaffe des trucs. Donc ça prend du temps, mais c'est un autre imaginaire, c'est un autre monde. Et donc c'est un apprentissage en fait. Et ça se fait pas en un mois, ça se fait sur des années. Et la SF pour moi, je me rapproche plus de travaux de Herbert qui s'est inspiré des sociétés berbères ou des gens du désert, des populations du désert, pour faire Dune par exemple.
Ouais.
C'est lui, il est pas du tout parti du coup. Il a pas pris. En fait, il a fait un espèce de mélange entre des sociétés un peu occidentales, donc telles qu'on le connaît, avec des princes, rois, etc., des ducs, etc. Et puis d'un autre côté, ce côté hyper tribal. J'aime pas ce mot-là, mais entre guillemets exotique, parce que ça a toujours ce côté un peu colonialiste, tu vois. Ouais. Donc faut faire un peu attention. Mais déjà à l'époque, quand il a écrit ce bouquin-là, c'était assez fort. Moi, ça m'a marqué, quoi. Et puis après, il y a des gars comme Jodorowsky aussi, qui a fait des BD comme L'Incal, qui a fait des films assez entre des trucs ésotériques et tout. Moi, je le conçois comme ça, en tout cas, mon monde, quoi. Un mélange de mysticisme, de science-fiction, en essayant de pas trop tomber dans les clichés.
Okay.
C'est pas sans risque, tu vois. Mais j'essaie de creuser avec la vision la plus sincère que j'ai en ouvrant un peu mon esprit un peu à tout ça, quoi.
Bah, je te le souhaite et bonne chance pour la suite alors.
Bah, merci beaucoup.
Merci à toi.